La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, en Jésus le Christ, notre frère et notre sauveur. Bienvenue à vous tous, bienvenue dans ce lieu où nous nous réunissons pour la seule gloire de Dieu. Nous sommes accompagnés ce matin par Alexandre Korovitch, qui est à l'orgue et que nous saluons. Et nous sommes en route vers un temps très important pour le christianisme tout entier, le temps de Pâques. Nous sommes en route sur ce chemin de questionnement, de préparation, ce temps où nous réfléchissons à cette résurrection et au sens qu'elle peut prendre dans nos vies. Bienvenue à vous tous et bienvenue particulièrement à ceux qui poussent la porte de ce temple pour la première fois peut-être ce matin. Vous êtes ici chez vous. Et vous êtes ici avec nous dans la même communion, quelles que soient vos convictions. Je vous invite à la prière avant de poursuivre avec le chant. Vous avez dans les débuts des psautiers français toute la liturgie, et donc je vous invite d'abord à la prière pour entrer dans ce culte. Seigneur, nous te remettons ce temps, cette halte avec toi. Comme le Christ au désert, nous nous mettons à part ce matin, à part du tumulte de nos soucis, de nos vies, à part de tout ce qui est autre que toi, et nous te contemplons dans ta sublime présence. Merci Seigneur de nous donner ce temps. Merci Seigneur de créer cet espace où ta présence rend sacrée nos vies. Amen. Et nous nous réunissons par le chant avec le premier répond au début des psautiers. Et nous nous levons. Le Seigneur, avec cette prière de louange d'après le psaume 84. De quel amour sont aimées tes demeures, éternel Dieu de l'univers. Mon âme soupire après la présence de l'Éternel. Mon cœur et ma vie tout entière sont un cri vers le Dieu vivant. L'oiseau lui-même s'est trouvé une maison et l'hirondelle un nid pour abriter sa couvée. Et moi, j'espère ta présence, éternel Dieu de l'univers, mon roi et mon Dieu. Heureux les habitants de ta maison, ils pourront te chanter et te chanter encore. Heureux sont ceux dont tu es la force, des chemins s'ouvrent dans leur cœur. Quand ils traversent la vallée de la soif, ils la changent en source. Ils vont de hauteur en hauteur. Ils se présentent devant Dieu. Ils sont élevés en sa présence. Poursuivons notre louange avec le psaume 72, les strophes 1, 2, 3 et 4.
Thank you.
Je vous invite à vous asseoir. Écoutons maintenant comment Dieu nous révèle sa volonté. En effet, dit le Seigneur, ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, et vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre mes méthodes et les vôtres, entre mes pensées et les vôtres, qu'entre le ciel et la terre. De même que la pluie et la neige tombent du ciel et n'y retournent pas sans avoir arrosé la terre et sans l'avoir rendue fertile, il en est de même pour ma parole, dit le Seigneur, ma promesse. Elle ne revient pas à moi sans avoir produit de l'effet, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. Plaçons-nous avec confiance devant le Seigneur, avec ce qui nous divise intérieurement. Et nous partageons cette méditation de Jean Racine. Mon Dieu, quelle guerre cruelle, je trouve deux hommes en moi. L'un veut que plein d'amour pour toi, mon cœur te soit toujours fidèle, l'autre, à tes volontés rebelles, me révolte contre ta loi. L'un, tout esprit et tout céleste, veut qu'au ciel sans cesse attaché et des biens éternels touchés, je compte pour rien tout le reste. Et l'autre, par son poids funeste, me tient vers la terre penchée. Hélas, en guerre avec moi-même, où pourrais-je trouver la paix? Je veux et n'accomplis jamais. Je veux, mais aux misères extrêmes, je ne fais pas le bien que j'aime et je fais le mal que je hais. Ô grâce, ô rayon salutaire, viens me mettre avec moi d'accord et domptant par un doux effort cet homme qui t'est si contraire, fais ton esclave volontaire de cet esclave de la mort. Je vous invite à vous lever, frères et sœurs, pour recevoir la grâce renouvelée sur notre vie telle qu'elle est, avec ses divisions, avec ses difficultés, pour suivre notre Seigneur. Et le Seigneur nous dit simplement, ta foi t'a sauvé, va en paix, ma grâce te suffit. Que ces paroles vous accompagnent tout au long de votre vie. et nous confessons notre foi. Nous croyons en Dieu. Malgré son silence et son secret, nous croyons qu'il est vivant. Malgré le mal et la souffrance, nous croyons qu'il a fait le monde pour le bonheur de la vie. Malgré les limites de notre raison et les révoltes de notre cœur, nous croyons en Dieu. Nous croyons en Jésus-Christ. Malgré les siècles qui nous séparent du temps où il est venu, nous croyons en sa parole. Malgré nos incompréhensions et nos refus, nous croyons en sa résurrection. Malgré sa faiblesse et sa pauvreté, nous croyons en son règne. Nous croyons en l'Esprit Saint. Malgré les apparences, nous croyons qu'il conduit l'Église. Malgré la mort, nous croyons à la vie éternelle. Malgré l'ignorance et l'incrédulité, nous croyons que le royaume de Dieu est promis à tous. Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Je vous invite à vous asseoir. Ce matin, nous méditerons ensemble, entamant un chemin au milieu du désert, les versets de l'Évangile de Matthieu au chapitre 4, les versets 1 à 4. Alors, Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Voilà la lecture pour aujourd'hui et je vous invite à chanter ensemble le cantique 190, les strophes 1, 2 et 3 dans les louanges et prières. 190. Thank you. Seigneur, ne nous laisse jamais oublier que tu parles aussi quand tu te tais. Donne-nous d'avoir cette confiance quand nous attendons ta venue, que tu te tais par amour comme tu parles par amour. Que tu te taises ou que tu parles, tu es toujours le même Père, le même cœur paternel, que tu nous guides par ta voix ou que tu nous élèves par ton silence. Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. Que veut dire être fils ou fille de Dieu? Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis ma joie. En recevant le baptême, Jésus reçoit la révélation de cette identité particulière. Il est le Fils de Dieu. Mais aussitôt après, le même esprit, le même souffle qui lui a fait cette révélation, le conduit au désert pour qu'il y soit tenté, provoqué par le diable, dit l'évangile de Matthieu. C'est le même esprit qui révèle l'amour de Dieu pour Jésus et qui le soumet à une sorte d'expérience initiatique. D'ailleurs, il est écrit que Jésus jeûne 40 jours et 40 nuits dans ce désert. Il s'inflige à lui-même cet ascétisme, sans y être contraint, rien ne le dit. Ce jeûne est ici présenté comme la suite cohérente de son baptême. On peut aller jusqu'à dire que Jésus a besoin de se confronter à ce diviseur, à ce provocateur qu'est le diable, pour découvrir ce que veut dire véritablement pour lui être enfant de Dieu. Vous comprendrez pourquoi la phrase « Ne nous soumets pas à la tentation » du Notre Père a tout son sens alors. Qu'elle n'est pas si scandaleuse qu'on veut bien le dire, au regard de ce que disent les Écritures du parcours de Jésus lui-même, et par conséquent de notre parcours, si nous nous reconnaissons nous aussi enfants de Dieu. Il s'agit d'éviter la mise à l'épreuve pourtant concomitante à la révélation de notre identité d'enfants de Dieu. C'est parce que nous sommes déclarés enfants aimés de Dieu, fils et filles de Dieu, que cette mise à l'épreuve est nécessaire ou plutôt inévitable, sauf si Dieu l'a fait cesser et nous en fait grâce. Et c'est ce qui est demandé dans le Notre Père. En effet, se reconnaître fils ou fille de Dieu, c'est devenir du même coup la proie possible de l'orgueil de la foi et être exposé à cette arrogance qui fait qu'on peut se croire Dieu à la place de Dieu. Je ne suis pas en train de prôner l'ascétisme et la contrition comme valeur du croyant, Mais je relève ce que nous dit le texte. Dans le texte de Matthieu, Jésus n'est pas jeté au désert, comme dans l'évangile de Marc, mais il se rend de son plein gré dans un lieu désert pour y être mis à l'épreuve et y jeûner, y faire l'expérience du dénuement. Il s'agit d'un passage obligé dans l'évangile de Matthieu, comme si l'amour de Dieu obligeait l'homme à interroger cette révélation de l'amour de Dieu cru par l'homme. La critique de la foi se trouve alors dans la foi même. Elle lui est consubstantielle. Tu es mon fils bien-aimé. Au nom de quoi ? Pourquoi moi ? À quoi cela m'engage-t-il et de quoi cela me délivre-t-il ? Où est l'autorité qui me fonde dans cette nouvelle identité ? Jésus, à l'instar de tous ceux qui ont eu comme lui la conviction qu'ils étaient enfants de Dieu, n'en est pas moins resté un être humain, ni plus ni moins bestial, ni plus ni moins divin que les autres. Il est entre bête et ange. Alors qu'est-ce qui est mis à l'épreuve dans ces 40 jours et ces 40 nuits au désert ? Aujourd'hui, regardons ensemble de quelle manière celui qu'on appelle le diable, le diviseur, puisque le mot diabolos vient du verbe diabalein, diviser, en grec, qu'est-ce que ce diviseur met à l'épreuve dans l'identité du Fils de Dieu ? Si tu es le Fils de Dieu, change ces pierres en pain. C'est cette provocation qui arrive au moment même où Jésus a jeûné 40 jours et 40 nuits au désert. Et l'évangile de Matthieu nous dit, il eut faim. Jésus est dans le lieu aride où aucun fruit de la terre ne peut lui être donné à manger. Un lieu comme le décrit le philosophe allemand du XIXe siècle, Schopenhauer, dans ses pages. Figurons-nous maintenant une telle contrée dépouillée de ses plantes elles-mêmes. Il n'y a plus que des rochers dénudés. Notre volonté se trouvera aussitôt inquiétée par l'absence de toute nature organique nécessaire à notre subsistance. Le désert prendra un aspect effrayant. Notre disposition deviendra plus tragique. Nous ne pourrons nous élever à l'état de pure connaissance à moins de nous abstraire franchement des intérêts de la volonté. Et tout le temps que nous persisterons dans cet état, le sentiment du sublime dominera nettement en nous. Dans cette description que l'on trouve dans le monde comme volonté, comme représentation, le philosophe nous parle d'une volonté qui est un vouloir vivre dévorant. Un appétit insatiable de vivre, un désir sans cesse présent en nous qui s'apparente à un vouloir sans fin. Le désert ici décrit comme celui de l'évangile de Matthieu est ce qui fait taire cette volonté. Elle ne peut plus s'accrocher à aucun objet. Elle doit se taire pour laisser place à la contemplation, à une passivité qui place la vie humaine dans une relation au sublime de Dieu. Jésus a faim. Il est tenaillé par cet appétit qui ne demande qu'à être assouvi. Et le diable est ce qui divise Jésus entre sa contemplation sublime de Dieu et son vouloir vivre humain. La sortie de crise que propose le diable est celle de la toute-puissance. Change ses pierres en pain. Mais si Jésus assouvit cette faim matérielle, comment s'élèvera-t-il encore au sublime de ce Dieu infini que son esprit peut quand même penser, malgré sa finitude ? S'il comble son ventre, que deviendra son esprit ? Comment être fils de Dieu à ce moment précis ? en comblant son besoin immédiat ou en sublimant sa condition humaine en faisant abstraction complètement de cette finitude qui se traduit par une faim qui lui tord les entrailles. Jésus répond alors, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Vivre avec son esprit plutôt qu'avec son ventre. Facile à dire quand on a de quoi manger à sa faim. Le jeûne est le luxe de ceux qui mangent à leur faim chaque jour. Le vrai problème que pose ce jeûne de Jésus au désert, c'est un problème d'appétit, mais pas seulement cet appétit qui fait oublier à l'être humain que sa recherche de satiété à lui plongera peut-être dans la famine ses frères, ailleurs, à l'autre bout du monde ou tout près de chez lui. Il ne s'agit pas de redistribution ici, de savoir si l'on mange trop et que du coup d'autres ne mangent pas assez. Sinon Jésus aurait multiplié les pains à partir des pierres et les aurait distribués au monde entier, le problème de la faim serait réglé. Le problème que soulève cette provocation du diable ici, c'est celle de la position de l'homme. Comme le dit l'évangile de Marc qui considère le même épisode relaté de façon lapidaire par ces mots, « Jésus était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient ». La condition humaine, c'est celle d'un entre-deux. L'homme est cette créature placée entre les besoins vitaux, qu'ont aussi les bêtes, qui cherchent leur survie chaque jour, dont la vie tout entière est tournée vers la sauvegarde de la vie biologique, et l'immatérialité des anges, qui n'ont aucun souci de survie, aucun lien avec le réel, avec le matériel, avec la finitude. Dans l'imaginaire biblique, les anges de toute éternité échappent aux contraintes de temps et d'espace. Ils traversent les générations et on les retrouve sans crainte d'anachronisme, aussi bien auprès d'Abraham qu'auprès de Marie. Ils traversent les testaments. Le diable qui provoque Jésus est cette division qui persiste en l'homme. Une vie limitée entre naissance et mort et un esprit capable de dépasser cette finitude et de penser le divin. Un appétit de vivre coûte que coûte et la foi en la vie éternelle. Alors, maintenant que Dieu l'a adopté dans la foi de son amour, comment Jésus se sortira-t-il de ce paradoxe? Comment être fils, pris comme Adam, dans la réalité de la génération qui fait que tout acte posé sur la terre par un homme l'est à l'horizon d'une mort certaine? Comment être de Dieu quand on est le glaiseux, Adam, sorti du paradis et condamné à travailler toute sa vie pour subsister? Fils et fille de Dieu, voilà à quoi notre foi nous appelle. Et l'équilibre entre ces deux conditions de bête et d'ange n'est pas toujours facile à trouver. Il arrive même que pour faire l'ange, on fasse la bête. C'est-à-dire que sous couvert de faire le bien de l'humanité et apparaître au-dessus de ses appétits primaires, on se comporte en fait comme une bête avec les autres. Une bête masquée, certes, mais une bête quand même. Regardez les combats pour la pureté religieuse et la violence qu'ils déploient au nom d'un Dieu pourtant qualifié de miséricordieux par tous, de toutes parts. Jésus est mis au défi de trouver cet équilibre entre son vouloir vivre et le divin qui vient de l'adopter. Être homme, mais être originé en Dieu. Changer les pierres en pain ferait de lui un dieu. Il pourrait gaver tous les hommes et annuler l'angoisse de survie des affamés de vie. Les hommes ne seraient plus des hommes alors. Ils se croiraient tout-puissants eux aussi et iraient, comme au jour de Babel, déloger Dieu de son inaccessible divinité. mais il faut bien se nourrir. Alors, après un jeûne de 40 jours et 40 nuits, Jésus répond à cette division intime par ces mots : l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Bien sûr, il y a le pain, mais il y a cette foi en un Dieu qui parle et dont les paroles peuvent nourrir l'homme. Pour assumer son identité de fils de Dieu, Jésus propose un régime mixte, le pain et la parole de Dieu. Fils de Dieu, étrange appellation qui dit à elle seule l'acte de sublimation qu'opère la foi en nous. Fils, bien sûr, pris dans la chaîne des générations, dans le cycle des naissances et des morts, mais fils de Dieu, d'une génération autre qui transcende la finitude. Alors, frères et sœurs, en Dieu, réjouissons-nous, parce que nous sommes humains et appelés au divin par Dieu lui-même. Réjouissons-nous parce que nous sommes libérés de la servitude des appétits primaires, parce que Dieu nous dit à tous « Celui-ci est mon fils ou ma fille bien-aimée ». Cette libération, c'est celle d'un peuple qui a marché 40 ans au désert, c'est celle des hommes et des femmes qui cherchent une vie dont ils ont la représentation dans leur esprit et dans leur cœur. Et cette vie, c'est la vie éternelle. Elle délie de toute servitude, celle de la fatalité, de la misère et de la faim aussi, celle de la génération qui nous enferme dans une lignée qui fonctionnerait comme un destin, celle qui essaie de nous dicter ce en quoi l'on doit croire ou non, celle qui enferme l'esprit dans la prison d'un corps qui fait souffrir et qui menace de mort. Réjouissons-nous, nous qui sommes appelés à être enfants de Dieu, car rien ne peut nous séparer de son amour, même pas la mort. Alors oui, il est possible de changer des pierres en pain, pas à la manière d'un magicien tout-puissant qui annulerait notre condition d'homme et de femme, mais en nous représentant toujours devant nous le royaume que nous avons à construire au nom de l'amour que Dieu nous porte. Là où il y a l'aridité d'un désert de pierre, là où la dureté d'une vie sans partage prédomine, notre foi en un monde plus juste peut faire advenir l'équité et la solidarité. Et alors les pierres deviendront du pain. Alors si nous sommes les fils et les filles de Dieu, nous changerons les pierres en pain, parce que la parole de Dieu nous conduira dans nos actes pour ce monde. Nous aurons l'image sublime d'un Dieu qui nous regarde et qui nous aime, et qui attend de nous que nous fassions advenir son royaume, qui existe déjà dans nos cœurs, dans nos pensées, et qu'il faut faire exister dans la dureté du réel. Nous serons toujours entre les bêtes et les anges, mais nous serons enfants d'un Père qui pourvoit aux besoins le plus essentiel pour nous, notre besoin d'humanité. Amen. Merci Alexandre pour cette évocation du Christ né du ventre maternel. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 216, les strophes 1, 2 et 3. Voilà, c'est le moment des annonces. Installez-vous et nous allons écouter ce que Gilles Devaux, président de l'Entraide protestante ici, l'Entraide de l'Oratoire du Louvre, a à nous dire.
Oui, bonjour à tous et bon dimanche. Donc merci encore à Béatrice Cléromazir, notre pasteur, qui a présidé le culte, et merci à Alexandre Korovitch qui nous accompagnait à l'orgue. De son côté, notre pasteur Agnès Adeline Schaeffer a répondu à l'invitation du foyer de l'âme où elle préside le culte ce matin. Alors, le calendrier de la semaine, ça démarre donc lundi avec le cours de grec biblique pour les débutants, donc qui se réunit en visioconférence de 19h à 20h30. Ensuite, on passe à jeudi avec la pause spirituelle, donc l'horaire habituel, donc 12h30, 13h30 au temple. Donc venez, si vous le souhaitez, venez avec un masque, évidemment, et dans le respect des consignes sanitaires, hein, mais ceux qui le souhaitent, ne restez pas enfermés, venez nous rejoindre au temple. Donc la pause spirituelle animée par Agnès jeudi, et un rendez-vous important également dans notre agenda, ce sera donc vendredi 12 mars à 12h30. Alors c'est une conférence qui a pour titre « Mémoire d'une juste ». Et donc c'est Emmanuel Rougier qui viendra présenter le livre « L'étoile blanche », qui relate comment Madeleine Fauconi a sauvé une avocate féministe, donc Yvonne Nettler, de la déportation. Donc une réflexion sur la foi face à la barbarie. Donc le rendez-vous, c'est vendredi 12 mars au Temple. Ce sera diffusé également sur Internet, mais toujours pareil, ceux qui souhaitent venir, donc aussi, c'est qu'ils n'hésitent pas, donc avec évidemment un masque, hein, et le respect des gestes barrières. On a une date prévisionnelle pour l'Assemblée générale, donc notez tous le 11 mars.
Avril.
11 avril, pardon. Avril. Le 11 avril, oui, pardon. Le 11 avril. Donc, l'Assemblée générale de l'Église et de l'Entraide. Et dernier petit appel, donc, pensez à l'association de Denise Brigou, de l'Armée du Salut, qui aide toujours des personnes en difficulté et qui a un grand besoin de produits d'hygiène. Donc vous pouvez, quel que soit le format, donc vous pouvez nous amener donc ce qui est shampoing, gel douche, etc. Hein. Et donc quand vous venez ici au culte, vous pouvez les déposer dans la première chapelle qui est à l'entrée, et puis ce sera récupéré régulièrement et transmis donc à Denise Brigou. Voilà.
Voilà. Donc, peut-être pour compléter, Gilles, excuse-moi, pour compléter tes annonces, c'est peut-être le moment de dire que vous pouvez retrouver sur notre site et sur YouTube, donc avec le lien qui a été donné dans la newsletter, surtout inscrivez-vous à la newsletter, c'est très précieux, la journée mondiale de prière, qui était anciennement la journée mondiale de prière des femmes, et que nous avons donc célébré ici avec un groupe de 6 femmes catholiques et protestantes, puisque c'est un mouvement œcuménique qui date du 19e siècle et qui dure depuis tout ce temps, et qui a pour but d'aider la condition des femmes dans tous les pays du monde. Et cette année, c'était le Vanuatu qui nous proposait leur prière. Donc les femmes du Vanuatu nous ont envoyé leur prière et ont monté une célébration entière que nous avons pu vivre en communion avec elles le vendredi 5 mars, puisque c'est le jour où, sur la terre entière, des femmes partout prient ensemble. Alors c'est un moment évidemment de prière, de chant, de découverte d'un pays, mais c'est aussi un moment de solidarité où vous pouvez envoyer des dons pour que les associations qui s'occupent des femmes du Vanuatu puissent continuer à le faire. Et souvent, c'est soit l'Armée du Salut, soit le Secours catholique, soit enfin des organismes que nous connaissons et avec qui nous sommes en très grande confiance, qui font ces actions auprès des femmes un peu partout dans le monde. Et là, cette fois-ci, c'était le Vanuatu, dont on sait aujourd'hui que encore un cyclone s'est abattu sur cette région du monde, et donc c'est un lieu où ils sont en proie à ces catastrophes naturelles, et nous pensons particulièrement à elles aujourd'hui. Voilà.
Voilà. Donc dernier, j'ai terminé avec les annonces. Donc dans quelques instants, ce sera la collecte au profit donc des actions que gère l'Entraide. Christophe vient de m'indiquer à l'instant que nous avons malheureusement un petit problème technique avec le panier connecté. Donc la carte ne marchera malheureusement pas aujourd'hui. Voilà, encore donc désolé pour ce souci technique. Et sinon, bon dimanche à tous.
Je vous invite à nous réunir dans la prière. Et j'associe aujourd'hui dans notre prière d'intercession la famille Bunel et la famille Jobard, qui sont deux familles endeuillées de notre communauté. Donne ton pain, Seigneur, à ceux qui ont faim. Et donne faim de toi à ceux qui ont du pain. Car toi seul, Seigneur, peux rassasier notre désir. Donne ta force à ceux qui sont faibles. Et donne l'humilité à ceux qui se croient forts. Car toi seul, Seigneur, es notre force. Donne la foi à ceux qui doutent et donne le doute à ceux qui croient te posséder, car toi seul, Seigneur, tu es la vérité. Donne confiance à ceux qui ont peur et donne ta crainte à ceux qui ont trop confiance en eux, car toi seul, Seigneur, soutiens notre espérance. Donne la lumière à ceux qui te cherchent et garde dans ton amour ceux qui t'ont trouvé pour qu'ils te cherchent encore. Car toi seul, Seigneur, peux combler notre amour. Ensemble, nous te disons, comme le Seigneur l'a appris aux disciples, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas dans la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au siècle des siècles. Amen. Ce temps de halte au désert est terminé, frères et sœurs. Peut-être cette halte continuera-t-elle dans vos cœurs, au-delà de la porte de ce temple. Mais sans doute aurez-vous découvert que nous pouvons vivre avec la division qui est en nous et que le Seigneur reprend. Allez, allez annoncer que l'amour de Dieu ne nous quitte jamais. Allez annoncer qu'il aime tout homme, toute femme, et que ce monde est son royaume. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur de toute grâce nous bénit et nous garde.